Je vous propose que nous commencions. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. C'est un plaisir d'accueillir cette soirée qui est consacrée à une très belle livraison des archives, revue dont les facultés Loyola Paris sont, comme vous le savez, l'éditeur. Je suis moi-même, j'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs, Louis Lourme, le recteur des facultés Loyola Paris. Ça semblera peut-être un peu convenu de dire cela, mais je tiens à profiter de cette soirée pour remercier les personnes qui travaillent à l'excellence académique de cette revue, qui est précieuse dans le monde francophone. C'est-à-dire d'une part son rédacteur en chef, Laurent Gallois, et sa secrétaire de rédaction, Sybille Doiron, bien sûr, tous les comités qui accompagnent cette publication, d'une part donc, et puis d'autre part, cela va de soi, les auteurs, dont nous avons la chance d'avoir ici trois représentants. Vous avez collaboré au volume d'avril-juin 2023, tome 86, le deuxième cahier, qui était consacré à Léo Strauss. Il y avait déjà eu un volume des archives partiellement consacré à Léo Strauss en 2016. Je l'ai apporté pour montrer à quel point je suis sérieux. Sur le thème Léo Strauss et le problème politique. Cette fois-ci, c'est un dossier consacré à la manière dont Léo Strauss a été ou est reçu. Notion de réception qui est déployée d'une manière très complète dans le beau titre du dossier, Interprétation, usage et appropriation de Léo Strauss, philosophie et politique. Soyez toutes et tous, mais vous trois en particulier, bienvenus donc. Je vais passer la parole à Éric Charmetan qui est le doyen de notre faculté de philosophie et moi je me tiendrai dans un petit coin, attentif bien sûr, avec le micro pour le temps des questions parce que il y a un certain nombre de personnes qui nous suivent à distance, un peu plus d'une vingtaine. Et donc, pour le moment des questions, c'est important que les questions, même si on est peu nombreux, soient posées avec le micro pour que tout le monde les entende. Voilà, je te passe la parole, Eric, pour la présentation de la soirée et des intervenants. Merci.
Voilà, donc je suis très heureux de pouvoir vous accueillir ce soir au nom de Laurent Gallois, qui, pour des raisons de santé, ne peut pas être là ce soir. Mais en tout cas, c'est un numéro qui lui a tenu à cœur et en fait, il m'en a parlé plusieurs fois et encore ce soir. Donc, un numéro consacré effectivement à la question de l'interprétation, les usages et les appropriations de Léo Strauss, sachant que c'est un auteur effectivement qui est de plus en plus connu, me semble-t-il, dans le champ francophone. Moi-même, à titre d'illustration, je l'ai découvert par deux biais, enfin, à la fois du côté, je dirais, anglo-saxon, sur le droit naturel darwinien, donc ce que j'ai travaillé sur les éthiques évolutionnistes, et puis effectivement plus récemment avec Corinne Pelluchon, parce qu'on sent bien que c'est un point d'appui très important dans sa réflexion de philosophie politique. Alors nous aurons l'occasion pour cette soirée de pouvoir vous entendre successivement, donc complètement à ma droite, Bruno Kelenek, donc qui a dirigé ce numéro des archives de philosophie, maître de conférence en études germaniques à l'université Paris 8, Vincennes, Saint-Denis. Et donc, vous avez fait votre thèse sur la philosophie politique du jeune Léo Strauss. Voilà. Et donc, je pense que ça joue un rôle justement très important. Et vous avez publié aussi en 2018 « Retour dans la caverne, philosophie, religion et politique chez le jeune Léo Strauss ». Voilà, je suppose, issu de votre thèse. Voilà, donc en tout cas, grand merci. Ensuite, nous accueillerons, donc pour prendre la suite, John Rogov, donc qui est membre associé des archives Husserl, qui s'intéresse beaucoup en fait à la fois à la réception de la phénoménologie du côté états-unien et anglo-saxon et aussi effectivement à la réception aux États-Unis, les interprétations de l'œuvre de Léo Strauss aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avec l'élection de Donald Trump en ce jour, on peut se dire aussi il y a eu un chemin assez étonnant. En fait, comment il y a une forme d'appropriation aussi de la pensée de Léo Strauss dans les milieux républicains, en tout cas certains milieux républicains, aux États-Unis. Voilà. Et ensuite, eh bien, ça sera David Smadja, qui prendra la parole. Donc, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Gustave Eiffel et vous travaillez depuis longtemps effectivement sur l'œuvre de Léo Strauss. Et donc, on aura justement un regard sur la réception française, en fait, de Léo Strauss. Voilà. Et donc, vous enseignez l'histoire des idées, des théories politiques. Je vois aussi, enfin, on aura l'occasion d'en reparler après, vous travaillez aussi sur certaines questions bioéthiques. Voilà. Donc, pour le déroulement de cette soirée, nous aurons successivement trois interventions de 20-25 minutes et puis un long temps aussi pour des questions suite à ces trois interventions. Je serai le maître du temps, donc si vraiment je vois que ça dure peut-être un peu trop, je vous ferai passer un papier, mais ne soyez pas froissés.
Merci beaucoup. Vous m'entendez ? C'est bon ? Ok, super. Donc, merci au Centre Sèvres de nous recevoir pour présenter ce numéro sur la réception de France. Merci aux Archives de philosophie d'avoir accepté d'accompagner ce numéro. Ce fut un processus assez long. Et voilà, je dois remercier aussi Laurent Gallois, bien sûr, et Sybille Doiron d'avoir voilà, concrètement, matériellement et aussi idéalement accompagné ce numéro. Leur aide fut très, très précieuse dans la constitution de ce petit livre. Alors, je vais commencer tout de suite. Il y a un petit déplié là avec quelques dates. Ça peut vous intéresser, c'est les grandes stations biographiques de l'œuvre de Léo Strauss. Alors, pour le philosophe ou le politiste français, Léo Strauss est d'abord un philosophe judéo-allemand émigré à la fin des années 30 aux États-Unis et qui a écrit des commentaires de la tradition philosophique, de Platon à Heidegger, en passant par Maïmonide, Machiavel, Hobbes, Spinoza, etc. C'est un auteur qui a redécouvert l'art d'écrire entre les lignes, l'art éso-exotérique d'écrire, l'art d'écrire des anciens. C'est le grand critique du positivisme et de l'historicisme des sciences sociales. C'est celui Arendt ou Voegelin a posé les jalons d'un retour à la philosophie politique classique et à la question du droit naturel. Ou c'est le théoricien des rapports conflictuels entre raison et révélation, entre Jérusalem et Athènes. Mais ce n'est pas, en France du moins, un penseur politique au sens strict du terme. Léo Strauss n'a d'ailleurs pas écrit de théorie politique en son nom propre. De plus, ça n'a jamais été un intellectuel engagé ou un public intellectual. Il n'a que très rarement pris position dans l'espace public sur des questions d'actualité. Même s'il a contribué au retour de la philosophie politique à la fin du XXe siècle, une grande partie de la recherche s'accorde sur le fait que le cœur de sa philosophie politique est apolitique et zététique, c'est-à-dire non dogmatique, sceptique. Léo Strauss s'intéresserait davantage aux questions fondamentales qu'aux réponses. Il serait toujours resté à milieu de petites politiques, même si, à vrai dire, son anticommunisme et sa distance critique vis-à-vis de la modernité politique sont assez évidentes à tout lecteur. Voici le portrait de Strauss d'aujourd'hui, vu de France, mais aussi d'Italie. David en dira peut-être plus tout à l'heure. Et c'est à partir de ce point de vue situé qu'il est intéressant de se confronter à d'autres réceptions nationales qui obligent à procéder à un décentrement, à une dénaturalisation des catégories car Léo Strauss a connu une réception tout à fait différente dans d'autres pays, très polémique, très politique, réception qui a dépassé à certains moments le cadre strictement universitaire. Je pense notamment à sa réception aux États-Unis, John nous en parlera, et en Chine, par exemple. Comment Strauss a-t-il pu devenir, bien après sa mort, après 1973, l'une des figures intellectuelles tutélaires du néoconservatisme américain et aujourd'hui d'un certain trumpisme ? Comment son héritage intellectuel peut-il être aujourd'hui revendiqué par des idéologues nationalistes chinois comme Liu Xiaofeng ou Gan Yang ? Et comment expliquer que les guerres d'interprétation autour de sa pensée aient eu lieu aux États-Unis et pas en Europe, où sa réception s'est révélée relativement consensuelle ?
Là, je suis obligé de faire. Je vois qu'à distance, on me dit qu'il n'y a pas de son. Voilà, donc on va, si vous pouvez peut-être...
Voilà, donc l'idée centrale du début de speech, c'était de dire qu'il y avait une réception relativement, en effet, consensuelle, pacifiée, relativement apolitique, plutôt philosophique, ou qui relève de l'histoire de la philosophie, de Léo Strauss en France, mais plus généralement en Europe, alors que dans d'autres parties du monde, notamment les États-Unis, le Canada ou la Chine, il y a des réceptions beaucoup plus polarisées, politisées, polémiques, qui aussi... ont lieu en dehors de l'espace universitaire. Et une des questions de ce numéro, c'était essayer de tenter d'expliquer ces différences, ces variations, cette variété dans les différentes appropriations du corpus straussien. Voilà, c'était une question finalement assez classique en histoire des réceptions en philosophie. Alors, la proposition centrale du numéro, en tout cas sa conception, c'était la suivante, celle selon laquelle les raisons de la politisation ou non de la référence théorique Léo Strauss ne peuvent être comprises et élucidées que si on considère ensemble les écrits du philosophe et les processus de réception compris dans leur autonomie relative. Donc l'idée, c'est de ne pas avoir une approche continuiste, dans le sens où tout serait dans l'œuvre originale et que la réception serait un pur déploiement de choses qui existent déjà dans l'œuvre originale, du penseur original, donc Léo Strauss, ni une approche complètement discontinuiste, selon laquelle toute réception serait toute une nouvelle création absolue. Voilà, donc l'idée, c'était d'avoir une démarche médiane entre ces deux pôles opposés, le pôle continuiste et le pôle discontinuiste. Voilà, l'idée, c'était de... Je suis parti du principe que les écrits de Léo Strauss donnent souvent, d'une manière ou d'une autre, des prises à leurs diverses appropriations futures, mais que ces dernières suivent également des logiques qui leur sont propres. Alors, pour marquer cette autonomie relative de la réception de l'œuvre par rapport à l'œuvre même et aux intentions originelles de l'auteur, il convenait de prendre en compte non seulement les stratégies propres de Léo Strauss, notamment aux États-Unis, en tant qu'il a établi une école de pensée, donc d'une certaine manière il a organisé à travers son école sa propre réception, mais il fallait prendre aussi en compte, au moins partiellement, l'histoire et la structure des champs de réception, les stratégies des médiateurs, de ses disciples et autres récepteurs de son œuvre, et à chaque fois se poser des questions simples de type contre qui, dans quel contexte, dans quel forum et pourquoi faire, les récepteurs mobilisent-ils la référence théorique Léo Strauss. Voilà. Alors on a cherché aussi à refuser une opposition presque morale, assez courante dans les études straussiennes, entre la bonne lecture de Léo Strauss, qui serait une lecture philosophique, et la mauvaise lecture, qui serait une lecture trop politique, idéologique, entre la fidélité à l'œuvre et l'infidélité à l'œuvre, qui, selon moi, empêche de prendre vraiment au sérieux les mécanismes propres à la réception. Voilà, c'est un numéro, pas sur Léo Strauss directement, mais sur les réceptions de Léo Strauss, et si on a une idée trop forte de la valeur et de l'interprétation de l'original, c'est difficile de faire attention et de ne pas juste balayer des interprétations qui ne nous plaisent pas ou qui ne nous semblent pas très convaincantes. Là, l'idée, c'était vraiment de s'approprier et de prendre au sérieux ces questions de réception, d'interprétation et d'usage de Léo Strauss. Alors, bien sûr, il y a un ensemble de faux débats sur Léo Strauss aux États-Unis et en Chine, mais à mon avis, même ces controverses peuvent jouer un rôle de révélateur, et ce, à un double point de vue. D'une part, les controverses autour de Léo Strauss nous renseignent souvent sur les contextes dans lesquels cette référence est mobilisée, sur les intérêts ou les stratégies des récepteurs eux-mêmes. Il n'est pas anodin que la référence straussienne intervienne presque toujours dans le cadre d'un diagnostic de crise de la modernité, du libéralisme, lui-même associé à un discours de refondation philosophique ou théorique à distance des sciences sociales et qui passe par une relecture hérétique de la tradition philosophique. Dans pratiquement tous les contextes où Léo Strauss est une figure intellectuelle forte, il y a ce type de programme et de diagnostic qui est mis en place. D'autre part, donc ça, c'est en quoi la réception de Le Strauss peut nous renseigner sur le contexte dans lequel cette référence est mobilisée. D'autre part, les controverses portant sur la réception de Léo Strauss permettent parfois de jeter un nouveau regard sur certaines dimensions, notamment politiques, parfois négligées de ses écrits. À ce titre, la réception nationaliste chinoise actuelle peut s'avérer à bien des égards plus fidèle à l'esprit de certains écrits straussiens, notamment ceux des années 20 et 30, que d'autres interprétations qui sont plus lisses et plus dépolitisées de ces mêmes textes. Ces appropriations politiques chinoises font ainsi peut-être remonter, alors ça serait une hypothèse, remonter à la surface des aspects que Léo Strauss lui-même et son école ont cherché plutôt à refouler dans l'après-guerre. Donc, les réceptions permettent aussi d'apprendre quelque chose sur Léo Strauss. Donc, la mobilisation de Léo Strauss nous apprend quelque chose sur sa réception, bien sûr, mais l'inverse est également vrai. En tout cas, c'était les hypothèses sous-jacentes à ce dossier. Bref, les réceptions, même polémiques, nous éclairent sur l'œuvre, tandis que la biographie intellectuelle de Léo Strauss peuvent nous éclairer sur les réceptions. Dans ce qui suit, alors très brièvement, vu qu'on a perdu un peu de temps, fidèle à cette perspective, je vais revenir très vite sur la biographie intellectuelle de Léo Strauss et sur la constitution de son école aux États-Unis, sans trop empiéter sur le speech de John, John qui va ensuite nous parler de la réception américaine et David qui va nous parler de la réception en France. Alors, il y a un exemplier qui est présent, donc les grandes étapes sont marquées. Ces étapes sont aussi décrites dans le petit article que j'ai écrit dans la revue, donc c'est largement une reprise, donc je vais pouvoir passer assez rapidement. Alors, juste pour dire que les études straussiennes, comme dans toutes les études sur des grands auteurs, eh bien, il y a des conflits sur les périodisations, comment on découpe l'œuvre, etc. Bon, on connaît ça de Heidegger, mais Léo Strauss, il y a aussi des débats. Est-ce qu'il y a la Kehre de Léo Strauss? Est-ce que ça existe? Oui, il y a même deux Kehre, en tout cas, c'est ce que j'ai dit dans ma thèse. Même chez le jeune Léo Strauss lui-même. Mais voilà, en général, dans la recherche, on fait la distinction assez simple entre la période européenne de Léo Strauss, donc jusqu'à 1937, et la période américaine à partir de 1937, date de son arrivée aux États-Unis jusqu'à sa mort en 1973. Et l'idée de mon petit travail de biographie intellectuelle, c'était de mettre en question ou d'interroger ce type de découpage, alors qu'il reste valable, mais en rajoutant des couches. Voilà, en rajoutant des phases de rupture, de transformation, parce qu'il y a pas mal de volte-face ou de changements dans l'œuvre de Léo Strauss, dans sa biographie intellectuelle. C'est une biographie intellectuelle marquée par le siècle, hein, d'essayer de découper cette biographie en essayant d'expliquer que s'il y a plusieurs Léo Strauss, c'est assez manifeste, hein, plus dans la réception, c'est aussi parce que il y a plusieurs Léo Strauss dans son œuvre et ça, il a eu différentes phases et qui sont très différentes les unes des autres. Et que, il y a plusieurs appropriations possibles parce que son œuvre elle-même est diverse. Alors, je vais passer très, très vite sur ces différentes phases. J'ai fait un découpage en 6, avec 3 pour la phase européenne jusqu'en 1937. Alors, il est né en 1899 et 3 pour la période après 1937. Alors, pour aller extrêmement rapidement, Léo Strauss, c'est un jeune juif allemand qui est né en 1899. Il vient, alors ça c'est assez particulier, de la bourgeoisie, non pas de la bourgeoisie urbaine acculturée, assimilée comme on disait, mais d'un milieu rural plutôt politiquement et religieusement conservateur. Et c'est donc un jeune intellectuel qui vient de ce milieu rural relativement bourgeois, qui va rompre avec ses appartenances culturelles assez brutalement au moment de la Première Guerre mondiale, et il va devenir un sioniste. Alors sioniste, comme il dit, le sioniste va se convertir au sionisme politique pur et dur, comme il le dit dans un texte autobiographique. Et déjà ça, c'est une trajectoire assez atypique, hein, puisque en général, avant de passer au sionisme, on vient d'une famille relativement libérale, assimilée, etc. Et là, il passe d'une famille religieusement conservatrice, directement, sans passer par la case de l'assimilation et du libéralisme, il passe directement à la case du sionisme politique, ce qui est voilà une position assez excentrée et assez unique dans le milieu d'intellectuels juifs allemands radicaux nés autour de 1900, et ça va laisser des traces dans sa biographie intellectuelle. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé dans ma thèse. Alors, dans les années 20, alors, très vite, il philosophe, hein, c'est un philosophe, il étudie à Marbourg, donc un des hauts lieux du néocantisme allemand, hein, c'est là qu'il se forme. Il fait sa thèse avec Cassirer à Hambourg, même si les relations avec Cassirer sont assez complexes, hein, c'est pas le néocantisme qu'il revendique, lui, il est plutôt proche de Hermann Cohen au départ. Et ensuite, surtout, la vraie découverte, c'est à Fribourg, en Breisgau, avec la phénoménologie, hein, quand même le moment important pour lui avec Edmund Husserl et aussi Martin Heidegger, avec lesquels il étudie fugitivement au début des années 20. Parallèlement, il est très investi dans le mouvement sioniste, hein, et dans ce courant particulier du sionisme politique, qui est assez minoritaire. Alors les sionistes sont très très minoritaires en Allemagne au début du XXe siècle, hein, c'est plutôt les libéraux non-sionistes, mais anti-sionistes, patriotes allemands, qui sont dominants. Les sionistes sont une toute petite minorité, et lui, il fait partie de la minorité de la minorité. Bon, déjà, il fait partie de la minorité juive, mais en plus, en tant que sioniste, il fait partie de la minorité. Et au sein du sionisme, il est à nouveau dans une minorité, puisqu'il est plutôt représentant d'un sionisme, on va dire, de droite, alors qu'à l'époque, le sionisme est très fortement marqué par des idéaux anarchisants et socialistes, surtout dans les mouvements de jeunesse. Voilà, donc lui, il vient de ce milieu très, 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 très particulier. C'est un grand admirateur de Heidegger, de Nietzsche, etc. Donc voilà, il soutient cette espèce de synthèse voilà, sioniste de droite, très antisocialiste et radicalement athée. Hein. Donc ça, c'est quelque chose de très particulier. C'est un athée radical et la question de l'athéisme joue un rôle décisif dans ses écrits à la fois philosophique, mais aussi politique des années 20, voilà, qu'il rédige pour ses revues sionistes, du jeune mouvement sioniste, du mouvement étudiant sioniste de l'époque. Donc ça, c'est la première phase, la phase, on va dire, sioniste, jusqu'aux années 1928. La deuxième phase, et je vais aller beaucoup plus vite maintenant, c'est une phase de, on va dire, de réorientation, comme on dit souvent dans la recherche. Donc, il va progressivement abandonner l'engagement politique direct dans le mouvement sioniste, même s'il se reconnaîtra toujours comme sioniste. Mais disons qu'il va arrêter de publier dans des revues directement politiques, sionistes, etc. Et il va prendre de la distance avec la politique et se reconvertir d'une certaine manière, mais là, à la philosophie, avec un passage progressif d'une admiration pour les lumières modernes aux lumières prémodernes et un chemin qui va le faire aboutir à un moment à Platon, mais par le biais de la philosophie médiévale islamique et juive. C'est à ce moment-là qu'il va découvrir Maïmonide, Al-Farabi, etc., ce qui va produire des travaux importants en histoire de la philosophie, pour lesquels Strauss est encore aujourd'hui très reconnu. Mais voilà, c'est le moment de bascule vers la philosophie prémoderne, c'est ce moment de la fin des années 20, début des années 30, qui va avec une sorte de prise de distance aussi avec l'engagement politique. Voilà, on peut parler d'une nouvelle conversion, alors plus de l'orthodoxie au sionisme, mais là du sionisme à la philosophie, hein, qu'il comprend très très vite comme à distance, hein, de toute politique. Voilà. Et la troisième phase qui va commencer à partir de 1932, c'est la phase aussi du premier exil européen. Hein. En 1932, Léo Strauss quitte l'Allemagne, commence à travailler sur Thomas Hobbes. Hein. Il va produire un livre très important sur Thomas Hobbes en 1936. Il commence aussi à travailler sur Maïmonide et ses précurseurs islamiques, notamment Al-Farabi, Avicenne et Averroès. C'est un moment encore de réorientation supplémentaire de plus en plus, c'est le moment où il va faire pleinement son retour à ce qu'il va appeler ensuite plus tard la philosophie politique platonicienne, hein, qu'il redécouvre à travers les philosophes médiévaux islamiques et juifs, mais qu'il réinvente en même temps. C'est une relecture assez hérétique, puisqu'en général, ces penseurs étaient reliés à l'aristotélisme Et lui, sa grande thèse, ça veut dire ils ne sont pas ils le sont aristotéliciens, mais que en surface, hein, en réalité, ce sont des platoniciens et platoniciens au sens politique du terme. Donc c'est une relecture tout à fait nouvelle de ces classiques. À l'époque, dans ce qu'on appelait la Renaissance juive, il y a plein de relectures de Maïmonide. Et si on regarde les sources, compare lors du jubilé Maïmonide en 1935, parce qu'à l'époque on pensait qu'il était né en 35 et pas en 38, ce qu'on sait aujourd'hui, mais voilà, il y a un jubilé, il y a plein de livres philosophiques sur Maïmonide, et on se rend bien compte, quand on compare les différentes lectures, que Léo Strauss a une lecture bien à lui, hein, et notamment sur cet accent fait autour de la question du platonisme d'un point de vue politique. Donc la figure du philosophe roi, qui est un peu transformée par celle du prophète roi, joue un rôle très important à ce moment-là. Et voilà, et une des thèses de ma thèse, c'était de dire que voilà, dans ce moment 1932-1937, il y a une espèce de fantasme qui semble possible, réalisable ici et maintenant, d'une espèce d'union entre le politique et le religieux, entre le sage, le philosophe et le prophète, pour fonder un ordre politique qui, pour dire le moins, ne serait pas forcément très démocratique et très libéral, mais plutôt un ordre politique, on va dire, autoritaire, voilà, en s'inspirant de cette relecture voilà, des classiques, des philosophes classiques du Moyen-Âge, islamique et juif. Voilà. Donc ça, c'est une thèse que je défends dans ma thèse. Beaucoup ne sont pas d'accord avec ça. Voilà, ça, on peut en discuter. Mais disons que voilà, ça achèverait la troisième phase, la phase européenne. Ensuite, il y a l'arrivée aux États-Unis. Léo Strauss aurait bien voulu continuer à enseigner en Angleterre. Trouver un poste en Angleterre, ça n'a pas été possible. Il aurait voulu aller à Jérusalem. Ça n'a pas fonctionné non plus. Il n'a pas trouvé de poste. C'est son ancien directeur, Julius Gutmann, qui a récupéré le poste. Et donc, il arrive à la Columbia University en 1937 avant de commencer à travailler à la New School de New York à partir de 1938. Et là, c'est encore un nouveau mouvement de transformation aussi politique. Il abandonne progressivement ce que j'ai appelé la tentation autoritaire. Il commence à s'accommoder avec un régime libéral et il devient même churchillien, selon ses termes, à soutenir aussi pleinement voilà, les États-Unis et l'Angleterre pendant la guerre contre le national-socialisme. Voilà, donc il y a un espèce de tournant politique, aussi un tournant en termes disciplinaires, puisqu'il passe de la philosophie. C'est vraiment un philosophe qui vient de cet héritage avec ce bagage néo-kantien, phénoménal, etc. Et avec l'exil, il va rentrer de plus en plus dans les départements de sciences politiques. Voilà, et il ne va pas les quitter. Voilà, donc en Angleterre d'une part, mais ensuite aux États-Unis, il va enseigner dans les sciences sociales et en sciences politiques, où il va aussi vraiment poser sa marque dans le paysage, surtout aux États-Unis. Va s'établir au fur et à mesure, et il va aussi, en arrivant aux États-Unis, délaisser cet affect utopique, alors que moi dans ma thèse j'ai appelé affect utopique réactionnaire, hein, c'était une utopie réactionnaire qui se dessinait là entre 1932 et 1937, selon moi. Et ben il va abandonner cette idée de philosophe roi, voilà, en réinterprétant les dialogues de Platon, en montrant que finalement cette idée du philosophe roi est impossible. En fait, c'est une utopie, mais impossible à réaliser. Et il va le faire par le truchement de la relecture de Platon, d'Aristoteles et des classiques. Et c'est sa façon à lui de faire une autocritique de son œuvre de jeunesse, de sa tentation autoritaire, si on veut, et en relisant les mêmes textes, mais en disant « Ah, il y avait quelque chose que je n'avais pas compris. Maintenant, je sais mieux lire les auteurs du passé. Et je comprends qu'en fait, ce que veut nous dire Platon, c'est que le rêve du philosophe roi, hein, donc un rêve a priori pas très démocratique, libéral et moderne, eh bien, ce rêve-là est impossible à réaliser. Et donc, voilà, il y a à nouveau une réorientation avec l'arrivée aux États-Unis qui va se confirmer dans les années qu'il va passer à la New School entre 1938 et 1948. 1948, ça va être la cinquième phase. Alors, c'est aussi le moment de la redécouverte de l'art d'écrire entre les lignes, hein, qui redécouvre à partir de 1938, donc chez les auteurs anciens, hein, une certaine façon d'écrire, Voilà, qui va mener à une certaine façon d'interpréter les textes anciens. Et en fait, au final, ça va devenir l'ensemble de la philosophie qui va relire de manière exo-ésotérique. On peut peut-être revenir là-dessus pendant la discussion. Mais voilà, donc en 1938, c'est là qu'il redécouvre cet art d'écrire chez Maïmonide et qu'il va ensuite retrouver cet art chez Platon, chez Xénophon et chez tout un ensemble d'auteurs classiques, mais aussi ensuite plus tard chez Lessing, chez Spinoza, etc. Bon. Je vais aller très très vite maintenant. Donc la cinquième phase est la plus connue, 1948, c'est l'arrivée à l'université de Chicago, la création de son école. C'est là qu'il écrit ses livres les plus importants pendant les 20 années entre 1948 et 1968. Donc sur la persécution à l'art d'écrire, On Tyranny en 1948 avec le dialogue avec Kojève, le Machiavel de 1958, le recueil d'essais What is Political Philosophy, le recueil important Histoire de la philosophie politique, que vous avez peut-être dans votre bibliothèque, de 1963, publié avec Crosby, etc., etc., City and Man, etc. Donc voilà, là c'est vraiment l'établissement et la fondation d'une école dans les années 50 et 60 à l'université de Chicago, voilà, où il va vraiment poser sa marque sur le paysage de la science politique américaine et beaucoup plus profondément, je pense, notamment grâce à son école, que des auteurs comme Voegelin à la réception bien moindre ou même que Hannah Arendt. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que on arrive sur la réception et l'école straussienne proprement dite. Et j'ai déjà parlé trop longtemps, je laisse John continuer.
Merci. Donc, je vais légèrement le contre-pied de Bruno, dans la mesure où ma lecture de ne porte pas uniquement sur la réception comme une sorte de... Je pense que la réception de Strauss aux États-Unis est quelque chose qui est un peu à la fois encastré dans la... Oui. Comme ça. Qui est encastré dans le... Et vice-versa. Donc, c'est-à-dire que... la réception américaine de Léo Strauss comme quelque chose qui serait autonome par rapport, dans la mesure où, à partir de 1937 en tout cas, on peut dire que la réception a été orchestrée par et a été intégrée dans l'œuvre en fait. Donc l'œuvre et la réception après il y a les appropriations après sa mort par les écoles, je parlerai des écoles straussienne qui se constitue à partir de sa mort ou peu avant, et en plus ensuite le troisième disons, cercle concentrique de la réception de l'œuvre de Strauss, de la référence de le controverse autour de la filiation néoconservatrice ou non à partir des années 80 et surtout dans les années 2000 où là il est vraiment question aussi, il ne peut pas ne pas là de quand même de trancher un peu de la bonne ou la mauvaise réception. Je pense qu'on ne peut pas cette question-là lorsqu'il s'agit de il aurait été attribué dans les années 2000 notamment. Donc je vais très rapidement tenter de proposer une lecture, et c'est aussi l'autre différence de mon approche. Moi je suis philosophe, donc j'ai une un peu plus sociologique que la mienne. Donc, moi, je vois la réception de Strauss non seulement comme étant ayant été, mais je pense que cette réception, un peu la première partie de cette réception, en tout cas, de son vivant, à partir d'une lecture de l'œuvre même. C'est-à-dire que il faut qu'on comprenne bien ce que Strauss essayait de faire, quel était son rapport à la chose politique, à la politique, aux politiques en général. Ensuite, il faut qu'on essaie de comprendre quel était son rapport au libéralisme, à la démocratie libérale, d'accord, comme une variante de rapport entre la philosophie et la politique, et quelle était sa stratégie, justement, pour essayer de faire accepter et fructifier son œuvre, ce qu'il avait à dire, par la démocratie libérale américaine, par le régime américain. Et donc, c'est un peu l'interprétation de faire avec, ou de sa critique ou non, de régime américain, qui est aussi responsable de, des écoles différentes parmi ses élèves, parmi ses disciples. Donc, je pense que Strauss, donc à partir de son arrivée aux États-Unis, peut-être qu'il y a cette tentation autoritaire qui remet en cause les États-Unis. Je pense que c'est notamment dû à l'évolution du régime national-socialiste, qui d'abord le déçoit et ensuite le glorifie, et surtout la Deuxième Guerre mondiale, qui est la rupture. Donc à partir de 1937 et a fortiori à partir de 1937, commence à écrire des articles qui vont constituer ses premiers ouvrages. Surtout, on voit célébrer un peu sa relation donc je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut dire que c'est une sorte de conservateur apolitique. C'est-à-dire que pour lui, le souci protéger la philosophie, protéger l'activité philosophique qu'il voit comme étant la plus importante, la plus aboutie, la seule activité pour lui qui est une fin en soi, donc cette activité zététique, d'accord, de recherche qui pose principalement les questions, qui ne cherche pas à être une philosophie dogmatique, à se constituer un dogme, d'accord. Et donc il réfléchit dans ses persécution et l'art de l'écrire et de la tyrannie, sur l'action politique du philosophe en général et sur les façons se comporte ou qu'il est dans un régime politique quelconque afin de protéger son activité, donc se protéger de la persécution et créer un environnement propice à la philosophie, à la vie philosophique. Et donc, dans la persécution de l'art d'écrire, il est question des régimes médiévaux et modernes. Et donc, dès la tyrannie, c'est des questions des régimes antiques, anciennes. Mais je pense que et de prime abord, et il était d'accord, enfin, à certains égards, la vie philosophique échappe à certaines formes de persécution dont elle a pu être victime d'accord, y compris des types de régimes dont Strauss a pu être partisan, des types théocratiques, disons, un peu fantasmés, mais bon, autoritaires. Donc, je pense qu'à partir des années 40, avec un double souci, c'est-à-dire d'essayer de comprendre, enfin de protéger son activité philosophique par rapport aux dangers politiques, y compris les dangers politiques dans un régime libéral, un régime démocratique, et il essaye d'influencer le régime même dans lequel il se trouve, le régime davantage propice à la disons, à la réception de la philosophie, davantage accueillant pour la philosophie, pour la vie philosophique. Donc, d'une part, le régime démocratique est des mêmes tares de tout, à savoir que, selon Strauss, à mon avis, et c'est sa lecture de Platon, l'opinion, la doxa, c'est un peu constitutif de la chose politique. D'accord. Or, justement, le but de la philosophie tel que le décrit par le savoir. D'accord ? Donc, mettre en cause les opinions reçues des gens, d'accord ? Et d'essayer de remplacer cela par le savoir, ce qui expose, parce qu'il a été accusé justement de corrompre la jeunesse. Et donc, Strauss veut éviter la persécution qui peut arriver, y compris dans un régime démocratique comme Athènes. Et c'est d'autant plus grave l'hégémonie est exacerbée, hein, quelque part. L'opinion est vraiment, on peut dire, maître en régime démocratique. Donc, et dans un régime libéral, évidemment, le régime athénien n'était pas libéral, les démocratiques n'étaient pas libérales, il y a une autre tendance. Dans un régime libéral, le but de la vie humaine est recalibré afin de viser des finalités matérialistes, etc. Ce qui détourne des âmes potentiellement philosophiques d'une vocation philosophique et de la société par une sorte de déculturation. Une sorte d'avilissement, vulgarisation. Et donc, il lutte, il voyait cela aussi potentiellement mortel pour la vie philosophique. Et en cela, je pense qu'en cela, il était, à mesure où il voyait l'opinion comme constitutive de la chose politique elle-même, il était schmittien. Donc, je pense qu'il assumait la phénoménologie de la chose politique de Carl Schmitt, qui voyait la l'ami et l'ennemi, c'est-à-dire le dedans étant constitué par notre façon familière le nomos, comme tu me disais Hérodote, d'un peuple qui sont la traduction collective. Donc, les gens sont attachés à leur mode de vie, à leurs préjugés, tout comme l'individu est attaché à son. Or, le paradoxe, la vie politique, la vie de la cité, d'accord, enfin, disons, cet attachement. Ses opinions, son mode de vie, est constitutif de la vie politique, d'accord ? Or, la philosophie dépend de la cohérence de la vie pour vivre, d'accord ? Donc, la philosophie ne veut ni la décomposition, d'accord ? Qui mettra en cause les mythes fondateurs d'appartenance d'un peuple. Mais il ne veut pas non plus que la philosophie soit perdue. Ce même sentiment d'appartenance en accusant le philosophe de les trahir, etc. Et le Strauss cherche à se frayer. Donc, il cherche. C'est pour cela que on a l'impression que son rapport à la démocratie libérale et au régime américain donc il essaie de se frayer ce chemin de milieu de protéger la philosophie des passions de la foule de l'opinion publique et c'est en ce l'art d'écrire entre les lignes, l'écriture reste pertinent, y compris dans un régime démocratique. ou des théocraties, etc. Et d'autre part, il cherche... les régimes fascistes. Donc, il cherche à affirmer sa confiance en lui dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale et face notamment à Heidegger. De l'autre côté, je pense qu'il croit vraiment que le patriotisme est quand même aussi nécessaire dans son existence, rester cohérent et pour pas que il y ait une sorte de décomposition de la société qui ne serait pas bien. Donc voilà, je pense que c'est ce sort de juste milieu qui son écriture s'adresse à deux publics à la fois, donc l'écriture ésotérique et l'écriture ésotérique s'adresse aux philosophes, d'accord, qui se voient quand même. Et l'écriture exotérique, je pense que s'adresse à ceux qu'il appelle les gentlemen. Donc c'est une grande thématique dans l'écriture, qu'on traduit parfois par gentilhomme. Enfin, en gros, je pense que aux yeux de Strauss, le gentleman, c'est et donc sa rhétorique à l'attention des gentlemen. D'une part, c'est de de les cultiver, de les rendre, de les persuader de la noblesse, d'une éducation libérale, etc., pour que, je pense que pour que les tendances nivellatrices de la démocratie, le contrepoids, disons, aristocratisant. Et de l'autre part, il veut les persuader, les gentlemen, de protéger la philosophie, de prendre le philosophe, de mettre le philosophe sous leur protection, d'accord, de protéger les philosophes par rapport aux passions démocratiques ou aux passions antidémocratiques aussi. D'accord. C'est par exemple, on voit très explicitement ce à l'œuvre chez Alan Bloom. Je pense que les idées straussiennes. Pas que, c'est pas que de la vulgarisation. Enfin, Et aussi, ça démontre l'efficacité de la rhétorique straussienne. Réussit son coup. C'est la même visée que Strauss avait. Et donc, l'université, il faut protéger l'éducation, son propos essentiel, protéger l'éducation, protéger l'université et une conception apolitique, non militante de l'université, de la recherche, ou autoritaire ou religieuse, ou peu importe, du monde politique ou du monde en dehors de l'université. Donc, en fait, il se lamentait par ces enthousiasmes politiques qui pour la philosophie que Strauss redoutait. Parce que je pense qu'aux yeux de Strauss, il y avait deux dangers pour le philosophe, ou pour la philosophie plutôt, dans sa relation politique, au monde politique. Le premier danger, c'est la persécution du philosophe. La persécution du philosophe par la foule ou par le régime mu par des passions inquisitrices, justement, ou au contraire, ce qui peut revenir en même, la transformation de la philosophie, disons, en idéologie. La transformation de la philosophie en dogme politique, en doctrine politique. D'accord. Donc ça, le fait que la philosophie perde sa vocation zététique et disons intime que pour les philosophes. D'accord. Et donc c'était aussi la grande donc c'était en fait le différent. Ils avaient étudié avec Husserl et Heidegger. Donc Kojève qui est resté en France et qui était l'un des grands énorme influence sur toute une génération d'intellectuels à partir des années 30, justement dans sa lecture marxiste et heideggerienne de Heidegger, de Hegel, pardon. Le grand différent entre Strauss et Kojève. Donc Strauss était un conservateur apolitique dans la mesure où lui pensait que la philosophie devait rester foncièrement séparée. La philosophie ne peut s'en faire entendre que auprès des privés ou dans les cercles assez restreints. Une sorte d'éducation de masse où on transformerait grâce au concept, à l'incarnation du concept, disons, dans la matière, dans le sensible, tel que le voulait Hegel, n'est pas possible. Aufklärung généralisée n'est pas possible. C'est que Kojève, en bon hegelien, c'était possible. Il pensait que, justement, la allait advenir grâce des cercles de Aufklärung, de lumière, prise de conscience progressive, des masses, des vérités qui étaient initialement contenues dans les discours philosophiques qui étaient réservés à des cercles. D'accord. Donc finalement, c'est un différent un peu anthropologique. Donc Strauss a laissé une sorte de pessimisme conservateur, anthropologiquement pessimiste, là où chez Kojève, ce n'était pas le cas. Et c'est aussi pour cela l'interprétation néoconservatrice de Strauss. Si on considère que est une sorte d'idéologie, enfin de vision, tel qu'on a connu le néoconservatisme, notamment dans les années 2000, on peut dire que Kojève est sans doute plus d'avant concernant entre la politique et les idées. L'idée qui se fait de leur rapport, un rapport d'extériorité réciproque, de politique, il est surtout dans une posture et vice versa. Il faut qu'il protège des philosophes qui seraient devenus des idéologues quand ils essaieraient d'imposer leurs idées. Donc, un peu résumé, je ne suis pas l'auteur de ce qui le disent assez bien, très bien. Très éclairante en même temps. Un peu résumé le rapport du Strauss à la modernité libérale américaine. Un syllogisme, disent. La modernité, c'est mal. L'Amérique, or l'Amérique est moderne, donc l'Amérique, c'est bien. Et donc ça, donc c'est contient un peu tout le paradoxe, toute la tension de rapport entre Strauss et l'Amérique. Et on dit souvent, parce que c'est vrai, que qui sont constitués à partir des années 60, par ses élèves, en quelque sorte, représentent des façons différentes de dans ce syllogisme. Donc, on a d'un côté les Straussiens qui ont tendance à minorer ils sont beaucoup plus d'Amérique en disant reste. Or, l'Amérique est moderne, donc on reste quand même. Le régime américain, c'est peut-être. De l'autre côté, on a des. Dont le maître était Harry Jack, le seul grand Straussien qui était de la côte ouest. Donc, la côte ouest, c'est Jaffa, et qui sont à Clermont, avec quelques succursales ailleurs. Et donc, ils ont tendance à vraiment souligner le dernier. Patriote, même patriote à outrance, et à minorer les deux premiers, notamment le tout premier, le deuxième, pardon, que l'Amérique est moderne. Ils ont tendance à dire que l'Élysienne, et surtout Jaffa, la grande thèse de Jaffa, c'est aux années 1860. D'accord. Mais le paradoxe, c'est aussi que pour Jaffa, l'idée. D'abord, il faut. En Jaffa, c'est l'un des fondateurs aussi de mouvements américains. D'accord. Il était la plume de Barry Goldwater en 1904. Et son Buckley, qui était le dans les années 50, était vraiment grâce à National Review de américain contemporain après guerre, peut-être qu'on le connaît aujourd'hui, et il a notamment surtout à partir des années 70, que Buckley, qui a commencé vraiment plutôt pêlé au conservateur, on peut dire, et ce qui permet de souligner Buckley et National Review, c'était des pêlés au conservateur des années 50, c'est que dans la politique américaine, ou la politique tout court aux États-Unis, c'est une lettre au National Review. Donc c'était. Oui, d'accord. Donc, pousse Buckley et National Review avec la lettre de Bruno. Le côte est, l'extension du côte est, c'est le et Jaffa, le côte ouest, c'est plus pas vraiment des nord. Toutes les formes de la droite américaine et j'aurais plutôt tendance avoir philosophiquement en tout cas la côte ouest, Jaffa en tout cas, comme étant proche idéologiquement en tout cas des néoconservateurs, et j'avais souligné si certains côtes est sont, sont vraiment étroitement associés aux néoconservateurs, et vraiment les seuls néoconservateurs de régime Bush, par exemple, de l'hémisphère, qui ont une quelconque association avec Strauss, l'ont été par le truchement de la côte. D'accord ? Là où il a fallu les trumpistes. D'autres, et je pense que même la majorité, beaucoup plus éloignés du néoconservatisme au niveau que ne l'ont été les Straussiens du ils ont été au moment de la annoncé, enfin, qui ont pris position contre le néoconservatisme, contre la même qui ont été pro-palestiniens, etc. Donc c'est, on voit, donc il s'agit de, je pense, de nuancer cette influence.
Voilà, merci. Il y aura du temps aussi pour les questions, pour évoquer l'actualité politique, et puis aussi, je pense qu'il y a d'autres périodes aussi de l'histoire des États-Unis. On peut se poser des questions, notamment dans les années 50. Voilà. Donc maintenant, nous passons donc à la réception française de Léo Strauss, donc avec David Smadja, donc qui a en fait articulé.
Merci beaucoup. Alors, écoutez, moi, je suis comment dire, très, très intéressé par ce qui vient d'être dit, parce qu'il y a déjà l'amorce, effectivement, d'une discussion. Alors moi, je me trouve, en fait, dans une situation où j'ai abordé cet objet avec un plus grand éloignement, en fait, hein, au sens où, en réalité, moi, j'ai lu, comme beaucoup, les textes de Strauss en anglais ou en français. Donc j'ai privilégié en fait d'abord une approche internaliste, mais je ne suis pas fait de recherche aussi approfondie hein, que mes deux collègues directement sur Strauss ou sur sa réception, on pourrait dire, en France. Et j'ai proposé en fait à travers cet article en fait une sorte d'amorce de recherche qui se centrerait en fait sur une lecture. Une réception de Strauss en France qui serait, comment dire, de deuxième, voire de troisième génération, en fait. Hein. Et je dis ça d'entrée de jeu parce que, en fait, ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment, à travers cet objet, cette recherche, je pouvais trouver l'occasion de revenir sur, finalement, ce qui fait un petit peu le cœur de ma recherche, c'est-à-dire voir comment est-ce qu'on peut faire une histoire des idées, une histoire des idées politiques, des philosophies politiques, qui prendra au sérieux, comme l'ont fait mes deux collègues, finalement, une démarche qui serait contextualiste, c'est-à-dire à s'engager dans une voie où, par le biais de la reconstitution d'un contexte intellectuel, académique, mais également au-delà et politique, comment est-ce qu'on peut, finalement, ne pas, ça a été très bien dit par mes deux collègues, ne pas s'éloigner de la philosophie, du questionnement philosophique dans sa dimension, je dirais, la plus authentique, mais comment est-ce qu'on peut, en fait, par ce biais-là, hein, opérer un détour, hein, c'est-à-dire, et donc revenir d'une manière plus réfléchie et plus intéressante vers le sens fondamental des philosophes, c'est-à-dire de la pensée, là en l'occurrence de Léo Strauss, et de la manière dont des lecteurs, des lectrices ont pensé, en fait, avec Léo Strauss. Donc en fait, je voudrais aborder la question de la réception, d'une certaine réception française de l'œuvre de Léo Strauss, en mettant bien en avant, c'est-à-dire cette question qu'on pourrait qualifier d'épistémologique. Hein. Alors le débat, il a été déjà un petit peu amorcé entre mes deux collègues, et je dirais, alors c'est pas parce que je parle en troisième et que je voudrais faire une synthèse de thèse-antithèse, hein, je veux dire un peu une mauvaise dissertation, bon, mais il y a un peu quand même ce côté-là, c'est-à-dire qu'en écoutant mes deux collègues, d'abord, je suis très heureux de rejoindre cette communauté de travail avec eux. Hein. Mais je me disais, les deux, me semble-t-il, ont raison de proposer cette approche, précisément parce que il me semble que quand on étudie, alors je vais commencer par parler de ce que vient de dire John, c'est-à-dire que dans une perspective en fait strictement philosophique, quand on étudie Strauss, la pensée straussienne, Il me semble effectivement que comprendre Strauss, c'est-à-dire fondamentalement comprendre, on pourrait dire, le démon de Socrate, c'est-à-dire la philosophie telle qu'elle s'incarne dans la démarche socratique. Hein, voilà, donc dans cette pensée straussienne qui est plutôt tardive, hein, qui apparaît plutôt à la fin des années 30 et qui rejoint finalement la démarche de la philosophie politique. Penser fondamentalement comprendre Strauss et comprendre Socrate, c'est, comme ce qui a été dit, comprendre que ce qui est en cause, chez Socrate comme chez Strauss, c'est non pas la philosophie comme un discours autonome, je dirais, qui pourrait se déployer de manière abstraite, séparée du contexte de la cité, de la police et plus généralement de l'ensemble des communautés politiques, c'est bel et bien, et ça c'est parfaitement clair chez Strauss, de comprendre la philosophie hein, essentiellement à travers la modalité du dialogue au sens socratique, c'est-à-dire, pour parler tout à fait clairement, effectivement, je reprends tout ces passages bien célèbres de Léo Strauss, c'est-à-dire prendre au sérieux l'idée que la philosophie politique, en fait, trouve son ancrage, sa signification la plus authentique, à travers un questionnement oral, Socrate, n'ayant jamais rien écrit, ne venant jusqu'à nous que par Platon et Xénophon, donc l'oralité, hein, explicité par le mythe de Teute, d'ailleurs notamment dans les dialogues platoniciens, c'est-à-dire cette idée que l'écriture, en fait, vient... ici remettre en cause l'essentiel du questionnement philosophique qui doit être un questionnement oral et derrière cette idée d'oralité il y a cette idée d'une forme de dialogue entre le philosophe et le non-philosophe, c'est-à-dire que c'est cette idée d'une centralité de la communication entre la philosophie, entre le philosophe et le non-philosophe, c'est-à-dire cette inscription fondamentale du philosophe dans la cité, d'accord ? Pour penser à la fois ce qu'il peut apporter de manière la manière la plus essentielle et plus éminente à travers cette réflexion autour de la question de la justice, du bien, des valeurs, on pourrait dire, des fins de l'action humaine, mais également pour penser, et ça a été très bien dit par mon collègue, cette idée que la philosophie ne peut se comprendre au sens le plus éminent du terme que comme une activité qui relève à la fois de l'excellence, elle ne peut pas, hein, contrairement à ce que dit Kojève et Hegel, je dirais, se traduire dans l'histoire à travers une rationalité dans l'histoire, elle demeure la propriété du philosophe, de sa réflexion vive, personnelle, et elle se caractérise fondamentalement par une forme d'excellence. C'est-à-dire, ce qui va d'ailleurs conduire à une interprétation, je dirais, élitiste de Strauss et donc conservatrice derrière. Il y a cette idée-là qui est fondamentale. Or, on voit bien ici que penser la philosophie politique à travers Socrate et à travers Strauss comme cette forme d'interrogation qui suppose le lien avec la cité, bah c'est la pensée comme paideia, comme forme d'éducation du non-philosophe, dans un contexte qui est un contexte profondément dangereux pour le philosophe, qui est celui du philosophe assassiné, c'est-à-dire voilà, Socrate qui est assassiné par la cité, voilà, et qui, d'une certaine manière, doit se situer finalement dans cette tension. Donc, moi, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire John ici. Alors, je le redis avec mes propres mots, mais au sens où c'est toute ce que nous enseigne Strauss, c'est que toute la philosophie politique elle-même, en fait, n'a de sens qu'à travers cette relation, je dirais, avec une communauté non philosophique, soit sous la forme du dialogue qui permet l'éducation des esprits les plus doués, les esprits philosophiques, soit sous la forme, effectivement, d'un discours. Écriture entre les lignes d'un discours dissimulé pour échapper d'une certaine manière au contexte de persécution comme ça va être ce sera mis en avant très clairement dans la persécution à l'art d'écrire. Donc je pourrais continuer comme ça en faisant parce que ça c'est dans les textes, c'est-à-dire que je suis simplement en train de reprendre le contenu de très nombreux textes de Léo Strauss lorsqu'il parle de la figure de Socrate. C'est presque de la paraphrase ce que je suis en train de dire, à mon avis, par rapport à ce que j'ai pu lire chez Socrate. Donc, je pense qu'effectivement, il y a cet élément de contextualisation qui est le propre même de la philosophie politique, hein, et qui part d'un problème qui n'est pas philosophique, hein, le problème que se pose la cité, les citoyens dans la cité, mais non, qui d'une certaine manière est préoccupé par la question de la vertu, parce qu'il est lui-même, je dirais, l'incarnation de la vertu citoyenne, on pourrait dire, et qui rencontre Socrate et avec lequel ils vont entrer dans une discussion, dans un dialogue autour de la question de la définition de la vertu, par exemple. Donc cette idée-là, elle est très importante et à mon avis, c'est la question de la philosophie politique elle-même, la définition de la philosophie politique elle-même qui suppose en fait ce rapport finalement à quelque chose comme un contexte non philosophique. Mais en même temps, et je reviens effectivement, je rejoins ce qui a été dit dans un deuxième, dans le premier temps, c'est-à-dire que justement moi, ce que j'ai essayé de faire d'autres essayent de faire aussi, c'est-à-dire de comprendre en quoi la démarche fondamentale de la contextualisation, en fait, elle peut être poussée plus loin, en un certain sens. Et qu'elle peut être poussée plus loin dans une direction où, et ça je rejoins un petit peu ce qu'a dit Bruno, c'est-à-dire où finalement c'est une approche non philosophique, et plutôt celle de l'histoire des idées, voire des sciences sociales, qui va apporter un certain nombre d'outils, en fait, plus externalistes qu'internalistes, qui vont nous permettre d'opérer cette contextualisation de la pensée de Léo-Strauss, comme on pourrait le faire aussi de la pensée de Socrate, et par ce biais-là, finalement, de retrouver le sens le plus authentique du texte. Mais pas comme le fait Strauss quand il parle de la persécution, pas comme le fait Strauss quand il parle de la communication nécessaire du philosophe avec le non-philosophe, hein, mais d'une manière qui serait, en un certain sens, paradoxale, contre-intuitive, puisqu'elle supposerait, finalement, pour comprendre Strauss comme il s'est compris lui-même, de désobéir à Strauss, c'est-à-dire d'aller regarder un petit peu du côté, non pas de la philosophie politique, mais des sciences sociales, et d'un certain type de sciences sociales, histoire, sociologie, on pourrait dire, moi je pense à ça, sciences politiques, d'accord, qui sont justement ces sciences sociales qui apparaissaient comme un repoussoir au moment où il est à New York, ou ensuite à Chicago, et où il est le porteur de ce projet de philosophie politique qui va tellement irriter, en un certain sens, ses collègues états-uniens, WASP, voilà, et qui fera qu'il ne trouvera de débouché fondamentalement plutôt du côté de la science politique que du côté de la philosophie, en fait, hein, qui est essentiellement et majoritairement une philosophie analytique anglo-saxonne à ce moment-là, hein, au moment où il arrive aux États-Unis. Eh bien, ici, le projet, c'est d'aller trouver dans une certaine forme d'approche de sciences sociales, en fait, les moyens de mieux comprendre Strauss. Et là, bah, je ne peux plus être complètement d'accord avec ce que dit John, parce que on ne peut plus être dans cette idée que c'est simplement les éléments de contexte et les pratiques, les usages qui ont été voulus par Strauss, ou en un certain sens dont il était un petit peu lui-même le maître d'œuvre, qui sont déterminants pour comprendre sa pensée, ça devient plus des éléments qui étaient là, en un certain sens, qui se sont imposés à lui, qu'il le veuille ou non, et dont il n'a pas été nécessairement conscient, ou vis-à-vis desquels il a été dans un rapport de semi-conscience, c'est-à-dire grosso modo le contexte académique, social. Il y a un truc dont vous n'avez pas parlé, mais moi qui me saute aux yeux, notamment quand je pense au passage du sociologue Lewis Kozer dans Men of Ideas, quand il parle de Strauss et de Hannah Arendt, il y a un truc qui saute aux yeux en termes de contexte et sur lequel j'aimerais bien vous entendre, c'est l'idée que vous avez effectivement deux juifs persécutés par les nazis qui arrivent aux États-Unis dans un contexte effectivement où il n'y a pas si longtemps, très clairement, l'académie était centrée avec une hégémonie WASP et avec effectivement un dépositionnement antisémite. Enfin voilà, très éloigné finalement, une forme de défiance antisémite vis-à-vis de ce qui était perçu comme une menace en fait, hein, voilà, par ces intellectuels qui venaient. Ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans Men of Ideas de Lewis Kozer, qui est un sociologue des idées. Donc il y a cet aspect-là qui. Alors je reviens sur l'idée. Alors vous allez me dire, mais je vois très bien, parce qu'effectivement c'est quelque chose qui est tout à fait vrai, et je pense que la principale objection c'est de dire, bah alors là vous êtes trop externaliste. Vous avez les trous vers des contextes d'énonciation et vous oubliez finalement la pensée de Strauss et vous allez oublier ces formes de réappropriation. Alors évidemment, moi je fais le pari, et comme tous les paris scientifiques, c'est discutable, que justement pas complètement. C'est-à-dire que je pense que l'on peut arriver à retrouver quelque chose d'assez essentiel. Et je voudrais effectivement ici finir mon intervention sur justement ce que j'ai essayé de faire dans ce travail. Alors, quand on parle d'utilisation des sciences sociales, attention, parce que si vous avez en tête le modèle des sciences sociales tel que, par exemple, il est critiqué par Hannah Arendt dans ses textes, dans La condition de l'homme moderne, par exemple, ou dans les textes dans Droit naturel et histoire de Strauss, vous avez une conception des sciences sociales qui est, là, pour le coup, totalement incompatible à la fois avec le projet de la philosophie politique et avec le projet de l'histoire de la philosophie politique. Je ne sais pas si vous avez ça en tête, mais Droit naturel et histoire, c'est un texte qui est très important, notamment dans la diffusion de Strauss en France, mais c'est un texte qui invoque cette idée, c'est une critique commence sur une critique de Weber, en fait, de Max Weber, c'est-à-dire cette idée que l'on pourrait avoir un rapport neutre, la neutralité axiologique, et que l'on pourrait construire un simple rapport aux valeurs, et notamment au rapport aux valeurs politiques. Et le positionnement de Strauss dans Droit naturel et histoire, et qui fait qu'il va avoir il va faire école en un certain sens dans la tradition française, c'est cette idée que on ne peut pas comprendre une valeur en tant que valeur sans fondamentalement s'engager dans un jugement de valeur. Et sur ce point-là, il y a une opposition fondamentale et qui est d'ordre philosophique, qui fait que en sciences politiques, on ne peut véritablement comprendre des valeurs politiques que si on s'engage dans cette voie-là. Et donc Strauss construit une perspective qui est une perspective critique des sciences sociales, perçue comme fondamentalement une approche objectiviste, prétendument neutre, voilà, qui effectivement, je trouve qu'il a une interprétation très behavioriste en fait des sciences sociales. Bah, tout simplement parce que, et ça c'est très bien dit par les travaux de mes collègues, bah, au moment où il arrive aux États-Unis, le modèle des sciences sociales, le modèle de la science politique, c'est le modèle dominant, le modèle hégémonique, c'est le behaviorisme. C'est-à-dire c'est une conception effectivement positiviste qui, là pour le coup, nous empêche fondamentalement d'avoir une compréhension de la pensée politique et on comprend pourquoi. Donc quand nous proposons une perspective différente, et je vais aller vite hein, pour laisser une place au débat, c'est-à-dire que quand on parle d'histoire des idées, et là je pense que je résume un petit peu ce qui a été dit aussi, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas le recours aux sciences sociales, et finalement de dire que l'on va rapporter une pensée extrêmement complexe, excellente, qui serait celle d'un enseignant philosophe comme Strauss, finalement simplement à des contextes sociaux où il serait rapporté en fait aux non-philosophes, à des groupes d'appartenance, à des groupes de référence, c'est pas ça fondamentalement qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est plutôt d'utiliser les outils des sciences sociales, et je conclue sur ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire, et notamment les méthodologies des sciences sociales, pour arriver en fait à mieux comprendre les usages et l'appropriation d'un auteur. Et c'est ce que j'ai un petit peu essayé de faire dans ce petit travail, exploratoire pour moi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand on essaye d'appréhender ou de mieux comprendre l'appropriation d'un auteur en utilisant comme technique, non pas simplement la lecture des lecteurs, des traducteurs, mais également des entretiens. J'aurais même pu aller du côté des observations. C'est-à-dire des techniques de recueil de données qui sont plutôt celles des sciences sociales et notamment de la sociologie. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait un entretien? Qu'est-ce que ça veut dire que faire un terrain en philosophie politique, en histoire des idées politiques? Qu'est-ce qui se passe quand on fait un terrain? Et ce que j'ai essayé de montrer, je vais sans doute donner d'autres publications qui essaieront de le théoriser plus, c'est que faire des entretiens de cette manière-là, ce n'est pas simplement camper un décor, c'est-à-dire un contexte externe, qui nous permettrait de rendre plus folklorique fondamentalement la pensée d'un auteur comme Léo Strauss ou ses modes d'appropriation et de réception. Hein. Alors, quand j'ai fait des entretiens avec Tanguay et avec Pelluchon, hein, pour d'une certaine manière documenter cette réception seconde de la pensée de Léo Strauss dans le contexte français, mon objectif, ce n'était pas simplement de dire « Ah, ben voilà, c'est une, par exemple, c'est une femme. » Alors qu'il y a peu de femmes qui lisent Strauss, ou ce sont des penseurs qui ont réfléchi dans d'autres contextes, avec, à un moment donné, il parle de la montée de l'islamisme. Enfin voilà, on est dans la fin des années 80, début des années 90. C'est pas simplement de camper un décor qui soit externe, c'est de reconstituer, à travers des entretiens qui sont évidemment très longs et très qualitatifs en fait, hein, des formes de réflexivité. En fait, c'est-à-dire des formes d'intelligence, de réflexion, de tension qui soient à l'œuvre dans la trajectoire de ces chercheurs et qui, finalement, se trouvent, en un certain sens, reformulées, explicitées, avec les outils de la philosophie, on pourrait dire de manière secondaire. C'est-à-dire, l'idée est de partir de ces données d'entretien pour reconstituer des tensions. Et supposer que ces auteurs, finalement, ont trouvé chez Léo Strauss, qui n'a rien à voir avec le Léo... Alors, je parle de Péluchon et Tanguay, ont trouvé dans un Léo Strauss, dans une certaine conception de Léo Strauss, un moyen d'expliciter, de déplier comme un mouchoir, finalement, ce qui constituait des tensions, c'est-à-dire des formes de réflexivité socio-historique. L'idée, c'est pas de faire une approche post-marxiste ou avec une sorte de vulgate marxiste très peu convaincante consistant à dire « ils pensent comme leur classe d'appartenance, conformément à leur position sociale ou à leur ethos de classe ». On n'est pas dans cette perspective-là. L'idée est plutôt de reconstituer des trajectoires avec des tensions, avec des problèmes qui n'apparaissent pas nécessairement dans leurs textes. Parce que leurs textes, c'est souvent des thèses publiées, là en l'occurrence hein, pour les deux que j'ai travaillé, hein, dans les thèses publiées, je ne dis pas qu'il ne faut pas les lire, parce que sinon vous ne faites pas de philo. D'accord ? Vous ne faites pas d'histoire de philosophie. Mais je ne dis pas non plus qu'il ne faut... Ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas que les lire. Si vous voulez faire de l'histoire de la philosophie, de l'histoire des idées politiques. Et c'est un petit peu dans cette direction-là qu'on va. Et là, on est dans un projet, il se trouve que c'est moi qui parle aujourd'hui, mais d'autres collègues, on travaille un petit peu en c'est un collectif de réflexion, effectivement, Bruno pourrait en parler mieux que moi, qui va un petit peu dans cette direction-là, notamment. Voilà, j'aurais pu parler de l'école de Cambridge, de Skinner, du contextualisme de Skinner. Voilà, c'est cette idée, effectivement, qu'il y a une méthode ici. Voilà, et c'est ça qui est important. Alors, je laisse pour la discussion, effectivement, les éléments liés à la réception, si vous voulez, de Léo Strauss dans le contexte français, mais je pense que si vous avez lu les textes et surtout les textes de mes collègues sont très clairs là-dessus. Je pense qu'il y a une chose qui est très intéressante à dire, juste en un mot avant le débat, c'est qu'en fait en France, moi c'est comme ça que j'ai découvert Strauss, hein, enfin, on a cette idée d'une centralité plutôt d'un Strauss assez tardif, c'est-à-dire le Strauss qui bascule dans la philosophie et qui devient philosophie politique, hein, et qui est porteur de ce projet de philosophie politique dans un contexte français où la philosophie politique, c'est pas la philosophie reine, c'est toujours le cas d'ailleurs, hein, voilà, je sais pas vous si vous avez fait des études de philosophie, mais quand on fait des études de philosophie, la philosophie politique, c'est un petit peu la dernière roue du carrosse, voilà, la grande philosophie, c'est la métaphysique, la phénoménologie, enfin, voilà. Donc il y a ce contexte-là, c'est comme ça que Strauss aussi apparaît, dans les années 50-60, au moment où il est introduit dans le contexte français pour la première fois, notamment autour de la discussion réappropriation par Raymond Aron, hein, qui justement va très clairement s'intéresser à Strauss, c'est le Strauss de droit naturel et histoire, qui lui permet d'une certaine manière de relire le savant et le politique de Weber avec une perspective très différente, hein, de celle, je dirais, de ses prédécesseurs. Et le propos de Aron, en fait, c'est que ça consiste, lui, pour le coup, à jouer la carte de la sociologie weberienne en disant, Weber, c'est pas aussi éloigné que ça, finalement, de la philosophie politique. Mais en même temps, ça se distingue de la philosophie politique de Léo Strauss. Et il y a toute une discussion là-dessus qui va d'une certaine manière s'enclencher. À partir de là, il est parfaitement clair. Il suffit de faire une, c'est même pas la peine de faire une approche lexicométrique, si vous voulez, pour le comprendre. Il suffit juste de prendre le temps de lire un certain nombre significatif de textes, hein, sans faire des mesures quantitatives, pour voir que Strauss, dans les années 60, c'est le Strauss de droit naturel et histoire, ça va être le Strauss du machiavélisme, c'est-à-dire c'est le Strauss qui dit la politique et la philosophie politique, c'est très important dans un contexte où en philosophie, la philosophie politique n'a pas beaucoup, beaucoup de reconnaissance académique. Et Strauss est un penseur qui est un penseur catalogué plutôt conservateur, bah parce que très précisément, c'est une réhabilitation du droit naturel. Voilà. Et socratique est donc d'une conception fondée sur l'excellence de la philosophie, et donc elle est perçue comme élitiste. Voilà. Quand on lit droit naturel et histoire dans les grandes écoles du pouvoir comme Sciences Po ou l'ENA, par exemple, bah, ce qu'on y cherche, c'est une conception, effectivement, qui va permettre de justifier la technocratie par le pouvoir des élites, voilà, très clairement. Et donc, il y a toute cette démarche-là. On pourrait en parler pendant longtemps. Mais le dernier point, c'est ça. C'est que moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'est-ce qui fait que ce moment, ce nœud de réception et d'appropriation de droit naturel et histoire, autour de droit naturel et histoire de Léo Strauss, ben, qu'est-ce qui fait que elle change complètement de forme, et que notamment, bah voilà, avec ses lecteurs plus tardifs, elle va prendre une forme beaucoup plus largement dépolitisée, d'historien de la philosophie, une forme scolaire, voilà, et surtout elle va prendre une forme, et ça c'est un petit peu la petite découverte, si tant est qu'il y en ait une, c'est qu'on va voir apparaître effectivement très clairement un Strauss chez Corinne Peluchon comme chez Daniel Tanguay, qui, d'une certaine manière, est intéressant parce qu'il permet de retrouver une certaine pensée plutôt à gauche, qui est une pensée, la pensée d'une certaine théorie critique, et qui, d'une certaine manière, est beaucoup plus progressiste et beaucoup moins conservatrice qu'elle ne pouvait l'être quelques dizaines d'années auparavant. Voilà, donc là, comme toute explication et toute forme de synthèse, elle, c'est tout à fait discutable. On peut trouver d'autres éléments, bien sûr, mais à mon avis, moi, j'en suis arrivé en fait à cette manière de voir les choses là. Et un dernier point qui m'a complètement surpris aussi, c'est que les deux auteurs, Peluchon et Tanguay, sont sont porteurs d'une requalification de Strauss qui consiste effectivement à mettre la religion au premier plan. Et pourtant, la question de la religion de Strauss, c'est-à-dire le judaïsme dans un contexte de persécution, est appréhendée d'une manière qui est extrêmement euphémisée. Puisqu'en fait, il se distingue d'autres lecteurs comme Carsanti, Bourrets, c'est-à-dire finalement les juifs, voilà. Pour le dire, et en disant c'est une forme qui est une forme simplement de persécution qui nous permet de repenser à nouveau frais la figure du philosophe assassiné depuis Socrate, etc. Donc il y a cette idée là, mais c'est quelque chose qui me semble-t-il être moi ça m'a surpris ça, si vous voulez, cette idée de dire voilà le judaïsme finalement est anecdotique. Il est mis en avant par des penseurs juifs. De la part d'un auteur qui est un spécialiste de Maïmonide, du Guide des Égarés, de la part d'un auteur qui a introduit dans l'histoire de la philosophie l'idée, un de ceux qui ont introduit dans l'histoire de la philosophie l'idée de l'art d'écrire entre les lignes, de l'art d'écrire, c'est une question que je me pose, moi une question de recherche, je me pose, je finis juste là-dessus. On a dit tout à l'heure qu'il était né dans un contexte orthodoxe juif, c'est-à-dire qu'il a vraisemblablement eu une représentation ou une compréhension de la pensée juive talmudique. Savoir lire et penser entre les lignes, c'est une des caractéristiques aussi de la pensée talmudique. Donc ça, c'est une question que je l'avais posée à Bruno, que je me pose, moi. Je ne suis pas du tout sûr qu'il faille aussi rapidement, alors certes, minorité, ok, si on doit faire de l'histoire des idées d'une manière qui soit, je dirais, fine, je ne suis pas du tout sûr qu'il faille, faire sortir le judaïsme de la pensée talmudique, voilà, avec l'eau du bain.
Voilà, merci beaucoup. Donc maintenant, un temps pour poser des questions. Donc nous allons faire circuler un micro donc, qui peuvent s'adresser aux trois intervenants de cette soirée. Et... Oui, mais ça. Alors, sinon, moi, j'ai des questions, en fait. C'est-à-dire par rapport... justement à cette catégorisation ami-ennemi en fait, et la question de la polarisation enfin, qu'on voit très fortement aujourd'hui dans la politique des États-Unis et qu'on a vu peut-être aussi à d'autres moments, je pense au McCarthyisme. En fait, voilà, enfin, comment Strauss en fait, enfin, réagit enfin, ou soutient ces formes de polarisation. Et puis la deuxième question, c'est peut-être aussi autour de... Voilà, de l'ambiguïté enfin, qu'on voit dans le rôle des élites aussi, enfin, ou la critique des élites, en fait, qui est quand même très forte dans beaucoup de populisme aujourd'hui.
Je pense que Strauss a été très, très inquiété par ces notamment, à droite et à gauche. Hein. On n'a qu'à reporter sur le McCarthyisme des années 50. Il a voté Strauss à gauche, toujours, enfin, dans les années 50, en tout cas. Il a voté pour les candidats démocrates, Alex Stevenson, deux fois. C'était reporté par un de ses élèves qui l'a amené voter. Et son élève, Jordan Astapo, qui était un juriste, qui est devenu célèbre à la fin des années 50, parce qu'il a persécution marxiste. Il a été viré d'Arrow parce qu'il a refusé de répondre à la question inquisitrice de l'époque, à savoir s'il. Et donc, du coup, il a été disbarred. Et Strauss lui a écrit. Vu le danger, enfin, je sais pas. Donc cette, je pense que cette attitude du monde était, on peut dire presque axiologiquement neutre, dans la mesure où, enfin, en tout cas, c'est comme ça. Il fallait faire avec. D'accord ? Il y avait préféré les leurs aux gens de l'extérieur à être. Ils ont travaillé par des passions populistes, poussées populistes qui donnent envie de s'opposer soit aux élites, soit aux le groupe extérieur, à la fois protéger l'activité philosophique de ces. Mais en même temps, je pense que son conservatisme anthropologique ne pas avoir trop de compte à la possibilité de surmonter cette condition. Donc on pouvait pas. Donc c'est aussi pour ça qu'il était contre les projets utopistes, selon lui. Une sorte de dépolitisation en ce sens. C'est pour ça qu'il voulait réserver, parce qu'il avait une vision assez élitiste d'éducation pour cette raison-là.
Oui, je trouve que la question du rapport au McCarthyisme, c'est vrai que je crois. Dans mes souvenirs, il n'y a pas de prise de position directe ou peut-être une ou deux allusions dans des textes
pas publics
ouais. Du tout. Enfin, d'accord, ok. Parce que c'est vrai que ça ne me dit rien. Je ne vois pas de position qu'il aurait pris directement vis-à-vis du McCarthyisme. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que Léo Strauss, je pense, aurait eu des difficultés, à partir de sa propre pensée politique, à prendre position de manière claire contre ce type de persécution, d'un point de vue normatif, dans le sens où, pour dire les choses de manière crue, tout bon régime politique stable a besoin, si on s'accorde à le concept schmittien de politique, a besoin qu'il y ait persécution. La persécution est un élément nécessaire, peut-être regrettable, de tout bon régime politique. Ça serait la thèse straussienne, dite un peu de manière un peu crue. Voilà. Et avec le, comme tu l'as dit, avec lequel le philosophe doit s'arranger. Voilà. Mais à partir du moment où c'est inscrit dans, où c'est, on peut dire, ontologisé ou naturalisé, c'est-à-dire dans le sens où tout régime politique, peu importe lequel, qu'il soit communiste, fasciste, conservateur ou libéral, pour qu'il perdure, pour qu'il persévère dans son être, il a besoin de faire la distinction entre les ennemis et les amis. Et les ennemis, si c'est l'ennemi intérieur, il est persécuté. En tout cas, dans sa perspective, l'ennemi politique est persécuté, mis injustement en prison, accusé devant les tribunaux, etc. Un peu ce qu'on a vu avec le maccartisme. Donc, d'une certaine manière, Léo Strauss n'a pas forcément pris position face au maccartisme de manière ouverte. Il a pu saluer un de ses élèves ou un de ses disciples qui s'est opposé au maccartisme en disant quel courage, quelle bravoure, bravo, etc. Mais d'un point de vue philosophique, de philosophie politique, à partir du moment où il ontologise la persécution, dans le sens où tout bon ordre, toute politéia, tout régime politique stable a besoin de faire cette distinction entre ennemi et ami, et donc a besoin de persécuter, et même dans le plus libéral des régimes, il y a aussi persécution, la preuve le maccartisme, à partir du moment où ce régime se sent menacé dans ses fondements, il a besoin de persécuter, eh bien, d'un point de vue de philosophie politique, Léo Strauss est incapable de critiquer fondamentalement la persécution, puisque en fait, elle fait partie de la chose politique elle-même. Voilà. Donc c'est toute la difficulté. Il y a à la fois cette peur, ou disons cette protection de la philosophie face au danger de la persécution, hein, et c'est quelque chose de thématisé de manière très très régulière dans les écrits après 1938 par Léo Strauss. Mais d'un autre côté, donc c'est un thème présent. Et il y a cette opposition entre l'ordre politique persécuteur, avec les masses, les dirigeants politiques, etc., et de l'autre côté, le philosophe, d'une certaine manière, en résistance face à cet ordre persécuteur. Mais de l'autre côté, cette persécution fait partie elle-même de l'ordre politique, elle-même, et de tout ordre. Donc, du coup, ça crée une espèce de tension, quand même.
Voilà, une autre question de la salle.
Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez revenir sur le thème du droit naturel, le livre Droit naturel et histoire, dans vos milieux, comment c'est interprété aujourd'hui? Parce que Léo Strauss montre qu'il y a une interprétation de type conservatrice, et puis aussi révolutionnaire, parce que, en fait, c'est ce qui s'oppose à l'arbitraire. En fait, le droit naturel, c'est ce qui s'oppose à l'arbitraire. Et du coup, comment on pourrait, dans le contexte d'aujourd'hui, on peut s'approprier le droit, comme il y a des menaces sérieuses? En quoi finalement ça pourrait être relu aujourd'hui, mais dans le cadre plutôt révolutionnaire, où je dirais qu'il y a un commun qui s'impose à nous, qui nous fait sortir de l'arbitraire du droit ou de certaines prises de position. Donc en quoi la question du commun pourrait réactiver ou permettre de relire cette œuvre aujourd'hui? Si dans vos lectures ou les milieux que vous fréquentez, il y a des choses dans ce sens-là, ça m'intéresserait, parce que c'est un thème, je trouve, important.
Merci, oui. Alors, c'est vrai que c'est une question, en fait, qui est assez importante, qui est liée, en fait, aux usages, en fait, politiques ou idéologiques de ces auteurs. Et c'est vrai que, à ma connaissance, enfin, à part... Les auteurs que j'ai mis un petit peu en avant ici dans la réception française, il me semble que il y a plutôt quand même une lecture qui met en avant, enfin, de droit naturel et histoire, qui met plutôt en avant un positionnement, on pourrait dire, plus conservateur et ce, en opposition avec de nombreux autres textes. Je pense, par exemple, c'est ce que me disait Corinne Pelluchon, et ça, je suis pas sûr qu'elle l'ait forcément écrit, mais elle disait, à propos justement de droit naturel et histoire, ça n'apparaissait pas comme étant un texte, je dirais, à mettre en avant, enfin, le premier texte à mettre en avant pour pouvoir rendre compte de la pensée de son maître, en fait, voilà. Parce que d'autres textes, en fait, de Léo Strauss, comme ça a été dit, en fait, sont porteurs d'une perspective beaucoup plus radicale, subversive, notamment autour de la figure de Socrate, c'est-à-dire la subversion socratique. En fait, qu'est-ce qu'il y a de plus révolutionnaire que le positionnement de Socrate, je dirais, par rapport à la société. Et donc, j'aurais tendance, en fait, à dire que à propos des usages de Léo Strauss, il n'y a pas le même débat qu'on pourrait y avoir à propos de Hannah Arendt, par exemple, où on voit qu'on peut très bien lire Hannah Arendt, La condition de l'homme moderne, ou La crise de la culture, en ayant effectivement une lecture plus progressiste, voire critique, en fait, et pas simplement traditionnaliste, en fait. Voilà. Donc il y a cet aspect-là. Mais là, c'est une réponse en fait qu'on fait qui pourrait être faite autrement, c'est-à-dire que à propos de la publication par Miguel Abensur du texte sur Machiavel, qui est en fait l'événement éditorial, qui va montrer qu'il y a une lecture de gauche en fait de la pensée de Léo Strauss dans le prolongement de la lecture de Claude Lefort en fait. Hein. Ce qui est intéressant, ce qui est mis en avant, effectivement, c'est un Machiavel qui permet aussi une forme de critique sociale. Mais peut-être, j'imagine, il y a d'autres éléments qui permettent de répondre à ça, sur droit naturel. Peut-être pas la pensée du droit naturel, telle qu'elle est conceptualisée dans droit naturel et histoire, n'apparaît pas comme étant centrale dans de nombreuses réappropriation ou si je ne sais pas, peut-être il y a d'autres.
De toute façon, je pense que le problème est rhétorique. Enfin, c'est une fonction politique en fait. C'est un sociologue, justement, c'est là aussi vraiment pertinent. Prendre en compte le contexte de Green, de Greenwald, où c'est vraiment sa première apparition sur la scène. De sciences politiques patriotique américain qui défend les principes fondateurs les démons nihilistes relativistes, mais je pense qu'il y a intrinsèquement conservateur dans le Strauss, parce qu'en fait c'est dans ce texte, dans le droit naturel, qui pense, il voit dans la matrice du relativisme à venir, le fascisme, tout ça.
Oui, peut-être rapidement. Alors, en effet, le droit naturel et l'histoire, c'est vraiment un texte très, très important pour le corpus straussien en général au moment de son arrivée aux États-Unis, enfin, en 1948, à son arrivée à Chicago, plus précisément. Et du point de vue de l'historien des idées, c'est assez intéressant de voir comment il se positionne avec ce texte vis-à-vis des traditions thomistes qui sont très, très fortes au sein de l'université de Chicago. Et il va y avoir toujours ce jeu chez Léo Strauss d'alliance dans l'adversité avec le thomisme, et notamment avec les traditions du droit naturel et de la loi naturelle, où pour beaucoup de lecteurs pas forcément très attentifs, ça va être même pas une alliance, ça va être une soudure. C'est-à-dire, finalement, il retrouvait retrouverait cette idée qu'on retrouve chez saint Thomas. Il y a tout un développement là-dessus et on a l'impression qu'on s'approche au plus proche de sa position quand il reconstruit les thèses de saint Thomas sur la loi naturelle, le droit naturel dans droit naturel et histoire. Mais en fait, c'est un rapprochement, mais qui mène à une rupture. C'est-à-dire que, en fait, l'héritage qu'il va revendiquer, et une fois de plus, il va le revendiquer tout en le redécouvrant, mais tout en le réinventant, c'est cette tradition qui n'est pas thomiste, puisque le thomiste serait déjà une déformation de l'héritage grec. Ça serait, cette source originelle de Socrate et du platonisme qu'il va reconstruire. C'est important de voir que c'est donc ça prend position clairement contre toutes les traditions du droit naturel moderne. Donc c'est une position aussi contre les sources de la Constitution américaine. Hein, clairement, John Locke, Madison, etc. C'est balayé. Alors Madison s'est balayé en deux phrases, mais John Locke. C'est, Hobbes, Locke sont détruits philosophiquement dans les chapitres de droit naturel et histoire. Donc, quand il parle du droit naturel, c'est le droit naturel, c'est pas les droits naturels, c'est pas les droits fondamentaux de l'individu, etc. Pas du tout, c'est le droit naturel. Et du coup, on se dit, il n'est pas conservateur non plus, il se rattache pas non plus au traditionnalisme burkéen, etc. Donc, comment le situer? Qu'est-ce que c'est que cette prise de position philosophique? À quoi il se rattache? Ma thèse, ça serait qu'il crée une nouvelle position, qui n'existe pas en tant que telle. À l'époque, en tout cas, dans le paysage, on pourrait aller très, très, très vague, du conservatisme intellectuel américain. Sa position, ça va être celle du platonisme, ou du socrato-platonisme, ou d'ailleurs les différences entre Aristote et Platon disparaissent un peu dans les reconstructions ostrosiennes. Il va créer cette espèce de bloc de la philosophie politique classique où on va retrouver Xénophon, Aristote, Platon. Évidemment, il est très conscient des différences entre ces différents penseurs, mais il ne va pas insister dessus. Voilà. Et ça va être cette tradition du droit naturel. Et ensuite, alors, qu'est-ce que veut dire, à quoi ça correspond, cette tradition du droit naturel qui le recrée avec l'aide de Platon et d'Aristote? Ça, c'est une grande source de débat, mais c'est très important de voir que ce n'est ni la tradition des droits fondamentaux de l'individu créée à partir de Hobbes et Locke, et ce n'est pas non plus la tradition de la loi naturelle du thomisme, c'est une autre position, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a à voir avec la question du rapport entre le philosophe, le gentleman et l'ordre politique, voilà, et le vulgaire, comme il dit, donc les masses. Voilà. Donc c'est là que ça se joue, la question du droit naturel, mais pas forcément sur l'horizon des communs, comme vous venez de le dire, voilà. Voilà, donc l'actualisation des communs, il faut le faire peut-être avec quelqu'un d'autre que Léo Strauss, en tout cas dans droit naturel et histoire, c'est vraiment cette idée de l'ordre avec ces différents types d'hommes, le philosophe, une toute petite minorité, le gentleman, donc le dirigeant politique, celui qui est apte à diriger, et le vulgaire, qui est la grande majorité.
Voilà, merci beaucoup pour vos interventions et pour cette soirée. Donc, je crois qu'on peut applaudir cette présentation de ce numéro et une invitation, je pense, à lire ce dossier passionnant et aussi à redécouvrir sans doute, relire ou lire en tout cas des textes